Ursule Mirouette de Honoré de Balzac. Première partie. Les héritiers alarmés. En entrant à Nemours du côté de Paris, on passe sur le canal du Loing, dont les berges forment à la fois de champêtres remparts et de pittoresques promenades à cette jolie petite ville. Depuis 1830, on a malheureusement bâti plusieurs maisons en deçà du pont. Si cette espèce de faubourg s'augmente, la physionomie de la ville y perdra sa gracieuse originalité. Mais, en 1829, les côtés de la route étant libres, le maître de poste, grand et gros homme d'environ 60 ans, assis au point culminant de ce pont, pouvait, par une belle matinée, parfaitement embrasser ce qu'en termes de son art on nomme un ruban de queue. Le mois de septembre déployait ses trésors, l'atmosphère flambait au-dessus des herbes et des cailloux, aucun nuage n'altérait le bleu de l'éther, dont la pureté partout vive et même à l'horizon indiquait l'excessive raréfaction de l'air. Aussi, Minoret Levrault, ainsi se nommait le maître de poste, était-il obligé de se faire un garde-vue avec une de ses mains pour ne pas être ébloui. En homme impatienté d'entendre, il regardait tantôt les charmantes prairies qui s'étalent à droite de la route et où ses regains poussaient, tantôt la colline chargée de bois qui, sur la gauche, s'étend de Nemours à Bouron. Il entendait dans la vallée du Loing, où retentissaient les bruits du chemin repoussé par la colline, le galop de ses propres chevaux et les claquements de fouet de ses postillons. Ne faut-il pas être bien maître de poste pour s'impatienter devant une prairie où se trouvaient des bestiaux, comme en fait Paul Potter, sous un ciel de Raphaël, sur un canal ombragé d'arbres, dans la manière d'Obéma. Qui connaît Nemours sait que la nature y est aussi belle que l'art, dont la mission est de la spiritualiser. Là, le paysage a des idées et fait penser. Mais à l'aspect de Minoret Levrault, un artiste aurait quitté le site pour croquer ce bourgeois, tant il était original à force d'être commun. Réunissez toutes les conditions de la brute. Vous obtenez Caliban, qui, certes, est une grande chose. Là où la forme domine, le sentiment disparaît. Le maître de poste, preuve vivante de cet axiome, présentait une de ces physionomies où le penseur aperçoit difficilement trace d'âme, sous la violente carnation que produit un brutal développement de la chair. Sa casquette en drap bleu, à petite visière et à côte de melon, moulait une tête dont les fortes dimensions prouvaient que la science de Gall n'a pas encore abordé le chapitre des exceptions. Les cheveux gris, et comme lustrés qui débordaient la casquette, vous eussent démontré que la chevelure blanchit par d'autres causes que par les fatigues d'esprit ou par les chagrins. De chaque côté de la tête, on voyait de larges oreilles, presque cicatrisées sur les bords par les érosions d'un sang trop abondant qui semblait prêt à jaillir au moindre effort. Le teint offrait des tons violacés sous une couche brune, dû à l'habitude d'affronter le soleil. Les yeux gris, agiles, enfoncés, cachés sous deux buissons noirs, ressemblaient aux yeux de Kalmouks, venu en 1815. S'ils brillaient par moments, ce ne pouvait être que sous l'effort d'une pensée cupide. Le nez, déprimé depuis sa racine, se relevait brusquement en pied de marmite. Des lèvres épaisses, en harmonie avec un double menton presque repoussant, dont la barbe faite à peine deux fois par semaine maintenait un méchant foulard à l'état de corde usée. Un cou plissé par la graisse, quoique très court. De fortes joues complétaient les caractères de la puissance stupide que les sculpteurs impriment à leurs cariatides. Minoret Levrault ressemblait à ses statues. À cette différence près qu'elle supporte un édifice et qu'il avait assez à faire de se soutenir lui-même. Vous rencontrerez beaucoup de ces atlas sans monde. Le buste de cet homme était un bloc. Vous eussiez dit d'un taureau relevé sur ses deux jambes de derrière. Les bras vigoureux se terminaient par des mains épaisses et dures, larges et fortes, qui pouvaient et savaient manier le fouet, les guides, la fourche, et auxquels aucun postillon ne se jouait. L'énorme ventre de ce géant était supporté par des cuisses grosses comme le corps d'un adulte et par des pieds d'éléphant. La colère devait être rare chez cet homme, mais terrible, apoplectique alors qu'elle éclatait. Quoique violent et incapable de réflexion, cet homme n'avait rien fait qui justifiât les sinistres promesses de sa physionomie. À qui tremblait devant ce géant, ses postillons disaient « Oh, il n'est pas méchant !» Le maître de Nemours, pour nous servir de l'abréviation usitée en beaucoup de pays, portait une veste de chasse en velours vert bouteille, un pantalon de coutil vert à raies vertes, un ample gilet jaune en poil de chèvre, dans la poche duquel on apercevait une tabatière monstrueuse dessinée par un cercle noir. Année Camard, grosse tabatière est une loi presque sans exception. Fils de la Révolution et spectateur de l'Empire, Minoret Levrault ne s'était jamais mêlé de politique. Quant à ses opinions religieuses, il n'avait mis le pied à l'église que pour se marier. Quant à ses principes dans la vie privée, ils existaient dans le code civil. Tout ce que la loi ne défendait pas ou ne pouvait atteindre, il le croyait faisable. Il n'avait jamais lu que le journal du département de Seine-et-Oise ou quelques instructions relatives à sa profession. Il passait pour un cultivateur habile, mais sa science était purement pratique. Ainsi, chez Minoret Levrault, le moral ne démentait pas le physique. Aussi parlait-il rarement, et, avant de prendre la parole, prenait-il toujours une prise de tabac pour se donner le temps de chercher, non pas des idées, mais des mots. Bavard, il vous eût paru manqué. En pensant que cette espèce d'éléphant sans trompe et sans intelligence se nomme Minoret Levrault, ne doit-on pas reconnaître avec Sterne l'occulte puissance des noms qui tantôt raillent et tantôt prédisent les caractères? Malgré ses incapacités visibles, en 36 ans, il avait, la Révolution aidant, gagné 30 000 livres de rente, en prairies, terres labourables et bois. Si Minoret, intéressé dans les messageries de Nemours et dans celles du Gâtinais à Paris, travaillait encore, il agissait en ceci moins par habitude que pour un fils unique auquel il voulait préparer un bel avenir. Ce fils, devenu, selon l'expression des paysans, un monsieur, venait de terminer son droit et devait prêter serment à la rentrée comme avocat stagiaire. Monsieur et madame Minoret Levrault, car à travers ce colosse tout le monde aperçoit une femme, sans laquelle une si belle fortune serait impossible, laissaient leur fils libre de se choisir une carrière, notaire à Paris, procureur du roi quelque part, receveur général n'importe où, agent de change ou maître de poste. Quelle fantaisie pouvait se refuser? À quel état ne devait pas prétendre le fils d'un homme de qui l'on disait, depuis Montargis jusqu'à Essonne, « Le père Minoret ne connaît pas sa fortune !» Ce mot avait reçu, 4 ans auparavant, une sanction nouvelle quand, après avoir vendu son auberge, Minoret s'était bâti des écuries et une maison superbe en transportant la poste de la Grand-Rue sur le port. Ce nouvel établissement avait coûté 200 000 francs, que les commérages doublaient à 30 lieues à la ronde. La poste de Nemours veut un grand nombre de chevaux. Elle va jusqu'à Fontainebleau, sur Paris, et dessert au-delà les routes de Montargis et de Montereau. De tous les côtés, le relais est long et les sables de la route de Montargis autorisent ce fantastique troisième cheval qui se paie toujours et ne se voit jamais. Un homme bâti comme Minoret, riche comme Minoret, et à la tête d'un pareil établissement, pouvait donc s'appeler, sans antiphrase, le maître de Nemours. Quoiqu'il n'eût jamais pensé ni à Dieu ni à diable, qu'il fût matérialiste pratique comme il était agriculteur pratique, égoïste pratique, avare pratique, Minoret avait jusqu'alors joui d'un bonheur sans mélange, si l'on doit regarder une vie purement matérielle comme un bonheur. En voyant le bourrelet de chair pelée qui enveloppait la dernière vertèbre et comprimait le cervelet de cet homme, en entendant surtout sa voix grêle et clairette qui contrastait ridiculement avec son encolure, un physiologiste eut parfaitement compris pourquoi ce grand, gros, épais cultivateur adorait son fils unique et pourquoi, peut-être, il l'avait attendu si longtemps, comme le disait assez le nom de « Désiré » que portait l'enfant. Enfin, si l'amour en trahissant une riche organisation est chez l'homme une promesse des plus grandes choses, les philosophes comprendront les causes de l'incapacité de Minoret. La mère, à qui fort heureusement le fils ressemblait, rivalisait de gâterie avec le père. Aucun naturel d'enfant n'aurait pu résister à cette idolâtrie. Aussi, Désiré, qui connaissait l'étendue de son pouvoir, savait-il traire la cassette de sa mère et puiser dans la bourse de son père, en faisant croire à chacun des auteurs de ses jours qu'il ne s'adressait qu'à lui. Désiré, qui jouait à Nemours un rôle infiniment supérieur à celui que joue un prince royal dans la capitale de son père, avait voulu se passer, à Paris, toutes ses fantaisies, comme il se l'est passé dans sa petite ville. Et chaque année, il y avait dépensé plus de 12 000 francs. Mais aussi, pour cette somme, avait-il acquis des idées qui ne lui seraient jamais venues à Nemours. Il s'était dépouillé de la peau du provincial. Il avait compris la puissance de l'argent et vu dans la magistrature un moyen d'élévation. Pendant cette dernière année, il avait dépensé 10 000 francs de plus en se liant avec des artistes, avec des journalistes et leurs maîtresses. Une lettre confidentielle, assez inquiétante, eut au besoin expliquer la faction du maître de poste, à qui son fils demandait son appui pour un mariage. Mais la mère Minoret Levrault, occupée à préparer un somptueux déjeuner pour célébrer le triomphe et le retour du licencié en droit, avait envoyé son mari sur la route en lui disant de monter à cheval s'il ne voyait pas la diligence. La diligence qui devait amener ce fils unique arrive ordinairement à Nemours vers 5 heures du matin, et 9 heures sonnaient. Qui pouvait causer un pareil retard? Avait-on versé? Désiré vivait-il? Avait-il seulement la jambe cassée? 3 batteries de coups de fouet éclatent et déchirent l'air comme une mousqueterie. Les gilets rouges des postillons pointent, 10 chevaux hennissent. Le maître ôte sa casquette et l'agite, il est aperçu. Le postillon le mieux monté, celui qui ramenait 2 chevaux de calèche gris pommelé, pique son porteur, devance 5 gros chevaux de diligence, les Minoret de l'écurie, 3 chevaux de berline et arrive devant le maître. « As-tu vu la Duclair ?» Sur les grandes routes, on donne aux diligences des noms assez fantastiques. On dit la Caillard, la Duclair, la voiture de Nemours à Paris, le Grand Bureau. Toute entreprise nouvelle est la concurrence. Du temps de l'entreprise des Lecomte, leur voiture s'appelait la Comtesse. Caillard n'a pas attrapé la Comtesse, mais le Grand Bureau lui a joliment brûlé sa robe tout de même. La Caillard et le Grand Bureau ont enfoncé les Françaises, les messageries françaises. Si vous voyez le postillon allant à tout brésillé et refusé un verre de vin, questionnez le conducteur. Il vous répond, le nez au vent, l'œil sur l'espace, « La concurrence est devant !»« Et nous ne la voyons pas, » dit le postillon. Le scélérat, il n'aura pas fait manger ses voyageurs. « Est-ce qu'il en a ?» répond le conducteur. « Tape donc sur Polignac, tous les mauvais cheveux se nomment Polignac. » Telles sont les plaisanteries et le fond de la conversation entre les postillons et les conducteurs en haut des voitures. Autant de professions en France, autant d'argots. « As-tu vu dans la Drue Claire ?»« Monsieur Désiré ?» répond le postillon en interrompant son maître. « Et vous avez dû nous entendre. Nos fouets vous l'annonçaient assez. Nous pensions bien que vous étiez sur la route. » « Pourquoi donc la diligence est-elle en retard de 4 heures ?»« Le cercle d'une des roues de derrière s'est détaché, entre Essonne et Pontiry, mais il n'y a pas eu d'accident. À la montée, Cabirolle s'est heureusement aperçu de la chose. » En ce moment, une femme endimanchée, car les volées de la cloche de Nemours appelaient les habitants à la messe du dimanche, une femme d'environ 36 ans aborda le maître de poste. « Eh bien, mon cousin, dit-elle, vous ne vouliez pas me croire. Notre oncle est avec Ursule dans la grand-rue, et ils vont à la grand-messe. » Malgré les lois de la poétique moderne sur la couleur locale, il est impossible de pousser la vérité jusqu'à répéter l'horrible injure mêlée de jurons que cette nouvelle, en apparence si peu dramatique, fit sortir de la large bouche de Minoret Levrault. Sa voix grêle devint sifflante, et sa figure présenta cet effet que les gens du peuple nomment ingénieusement un coup de soleil. « Est-ce sûr ? » dit-il après la première explosion de sa colère. Les postillons passèrent avec leurs chevaux en saluant leur maître, qui parut ne les avoir ni vus ni entendus. Au lieu d'attendre son fils, Minoret Levrault remonta la grand-rue avec sa cousine. « Ne vous l'ai-je pas toujours dit ? » reprit-elle. « Quand le docteur Minoret n'aura plus sa tête, cette petite sainte Nitouche le jettera dans la dévotion. Et, comme qui tient l'esprit tient la bourse, elle aura notre succession. »
« Mais, madame Massin !» dit le maître de poste hébété.
« Ah, vous aussi !» reprit madame Massin en interrompant son cousin. « Vous allez me dire comme Massin, « est-ce une petite fille de 15 ans qui peut inventer des plans pareils et les exécuter ?»« Faire quitter ses opinions à un homme de 83 ans, qui n'a jamais mis le pied dans une église que pour se marier, qui a les prêtres dans une telle horreur qu'il n'a pas même accompagné cet enfant à la paroisse le jour de sa première communion ?»« Eh bien, pourquoi, si le docteur Minoret a les prêtres en horreur, passe-t-il depuis 15 ans presque toutes les soirées de la semaine avec l'abbé Chaperon? Le vieil hypocrite n'a jamais manqué de donner à Ursule 20 francs pour mettre au cierge quand elle rend le pain béni. Vous ne vous souvenez donc plus du cadeau fait par Ursule à l'église pour remercier le curé de l'avoir préparé à sa première communion? Elle y avait employé tout son argent, et son parrain le lui a rendu, mais doublé. Vous ne faites attention à rien, vous autres hommes. En apprenant ces détails, j'ai dit « Adieu panier, vendanges sont faites. » Un oncle à succession ne se conduit pas ainsi sans des intentions envers une petite morveuse ramassée dans la rue.
« Bah, ma cousine, » reprit le maître de poste, « le bonhomme mène peut-être Ursule par hasard à l'église. Il fait beau, notre oncle va se promener. » « Mon cousin, notre oncle tient un livre de prière à la main, et il vous a un air cafard. Enfin, où l'allez voir ?»«
Ils cachaient bien leur jeu, » répondit le gros maître de poste, « car la Bougival m'a dit qu'il n'était jamais question de religion entre le docteur et l'abbé Chaperon. D'ailleurs, le curé de Nemours est le plus honnête homme de la terre. Il donnerait sa dernière chemise à un pauvre. Il est incapable d'une mauvaise action. »
Mais subtiliser une succession, c'est...
Mais c'est voler, dit madame Massin.
C'est pis, cria Minoret Levrault, exaspéré par l'observation de sa bavarde cousine.
« Je sais, répondit madame Massin, que l'abbé Chaperon, quoique prêtre, est un honnête homme. Mais il est capable de tout pour les pauvres. Il aura miné, miné, miné notre oncle en dessous, et le docteur sera tombé dans le cagotisme. Nous étions tranquilles, et le voilà perverti. Un homme qui n'a jamais cru à rien et qui avait des principes. Oh, c'est fait pour nous. Mon mari est sans dessus-dessous. »
Madame Massin, dont les phrases étaient autant de flèches qui piquaient son gros cousin, le faisait marcher, malgré son embonpoint, aussi promptement qu'elle, au grand étonnement des gens qui se rendaient à la messe. Elle voulait rejoindre cet oncle Minoret et le montrer au maître de poste. Du côté du Gâtinais, Nemours est dominé par une colline le long de laquelle s'étendent la route de Montargis et le Loing. L'église, sur les pierres de laquelle le temps a jeté son riche manteau noir, car elle a sans doute été rebâtie au XIVe siècle par les Guises, pour lesquelles Nemours fut érigé en duché pairie, se dresse au bout de la petite ville, au bas d'une grande arche qui l'encadre. Pour les monuments comme pour les hommes, la position fait tout. Ombragée par quelques arbres et mise en relief par une place proprette, cette église solitaire produit un effet grandiose. En débouchant sur la place, le maître de Nemours put voir son oncle, donnant le bras à la jeune fille nommée Ursule, tenant chacun leur paroissien et entrant à l'église. Le vieillard ôta son chapeau sous le porche et sa tête, entièrement blanchie, comme un sommet couronné de neige, brilla dans les douces ténèbres de la façade.
« Eh bien, Minoret, que dites-vous de la conversion de votre oncle ?»
s'écria le percepteur des contributions de Nemours, nommé Crémière.
« Que voulez-vous que je dise ?»
lui répondit le maître de poste en lui offrant une prise de tabac.
« Bien répondu, père Levrault. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez. Si un illustre auteur a eu raison d'écrire que l'homme est obligé de penser sa parole avant de parler sa pensée. »
s'écria malicieusement un jeune homme qui survint et qui jouait dans Nemours le personnage de Méphistophélès de Faust. Ce mauvais garçon, nommé Goupil, était le premier clerc de monsieur Crémière Dionis, le notaire de Nemours. Malgré les antécédents d'une conduite presque crapuleuse, Dionis avait pris Goupil dans son étude, quand le séjour de Paris, où le clerc avait dissipé la succession de son père, fermier aisé qui le destinait au notariat, lui fut interdit par une complète indigence. En voyant Goupil, vous eussiez aussitôt compris qu'il se fût hâté de jouir de la vie, car pour obtenir des jouissances, il devait les payer cher. Malgré sa petite taille, le clerc avait à 27 ans le buste développé comme peut l'être celui d'un homme de 40 ans. Des jambes grêles et courtes, une large face au teint brouillé comme un ciel avant l'orage, et surmonté d'un front chauve, faisait encore ressortir cette bizarre conformation. Aussi, son visage semblait-il appartenir à un bossu, dont la bosse eût été en dedans. Une singularité de ce visage aigre et pâle confirmait l'existence de cette invisible gibbosité. Courbe et tordu comme celui de beaucoup de bossus, le nez se dirigeait de droite à gauche, au lieu de partager exactement la figure. La bouche, contractée aux deux coins, comme celle des sardes, était toujours sur le qui-vive de l'ironie. La chevelure, rare et roussâtre, tombait par mèches plates et laissait voir le crâne par places. Les mains, grosses et mal emmanchées au bout de bras trop longs, étaient crochues et rarement propres. Goupil portait des souliers bons à jeter au coin d'une borne et des bas en filoselle d'un noir rougeâtre. Son pantalon et son habit noir, usés jusqu'à la corde, et presque gras de crasse. Ses gilets piteux, dont quelques boutons manquaient de moule, le vieux foulard qui lui servait de cravate, Toute sa mise annonçait la cynique misère à laquelle ses passions le condamnaient. Cet ensemble de choses sinistres était dominé par deux yeux de chèvre, une prunelle cerclée de jaune, à la fois lascifs et lâches. Personne n'était plus craint ni plus respecté que Goupil dans Nemours. Armé des prétentions que comportait sa laideur, il avait ce détestable esprit particulier à ceux qui se permettent tout, et l'employait à venger les mécomptes d'une jalousie permanente. Il rimait les couplets satiriques qui se chantaient au carnaval, il organisait les charivaris, il faisait à lui seul le petit journal de la ville. Dionis, homme fin et faux, par cela même assez craintif, gardait Goupil autant par peur qu'à cause de son excessive intelligence et de sa connaissance profonde des intérêts du pays. Mais le patron se défiait tant du clerc qu'il régissait lui-même sa caisse, ne le logeait point chez lui, le tenait à distance et ne lui confiait aucune affaire secrète ou délicate. Aussi le clerc flattait-il son patron en cachant le ressentiment que lui causait cette conduite et surveillait Madame Dionis dans une pensée de vengeance. Doué d'une compréhension vive, il avait le travail facile.
« Oh, toi, te voilà déjà riant de notre malheur !» répondit le maître de poste au clerc qui se frottait les mains.
Comme Goupil flattait bassement toutes les passions de Désiré, qui depuis 5 ans en faisait son compagnon, le maître de poste le traitait assez cavalièrement, sans soupçonner quel horrible trésor de mauvais vouloir s'entassait au fond du cœur de Goupil à chaque nouvelle blessure. Après avoir compris que l'argent lui était plus nécessaire qu'à tout autre, le clerc, qui se savait supérieur à toute la bourgeoisie de Nemours, voulait faire fortune et comptait sur l'amitié de Désiré pour acheter une des 3 charges de la ville, le greffe de la justice de paix, l'étude d'un des huissiers ou celle de Dionis. Aussi supportait-il patiemment les algarades du maître de poste, les mépris de Madame Minoret-Levrault, et jouait-il un rôle infâme auprès de Désiré, qui depuis 2 ans lui faisait consoler les Ariane victimes de la fin des vacances. Goupil dévorait ainsi les miettes des ambigus qu'il avait préparés.
« Si j'avais été le neveu du bonhomme, il ne m'aurait pas donné Dieu pour co-héritier, » répliqua le clerc en montrant par un hideux ricanement des dents rares, noires et menaçantes. En ce moment, Massin Levrault junior, le greffier de la justice de paix, rejoignit sa femme en amenant Madame Crémière, la femme du percepteur de Nemours. Ce personnage, un des plus âpres bourgeois de la petite ville, avait la physionomie d'un tartare. 2 yeux petits et ronds comme des sinelles, sous un front déprimé, les cheveux crépus, le teint huileux, de grandes oreilles sans rebords, une bouche presque sans lèvres et la barbe rare. Ses manières avaient l'impitoyable douceur des usuriers, dont la conduite repose sur des principes fixes. Il parlait comme un homme qui a une extinction de voix. Enfin, pour le peindre, il suffira de dire qu'il employait sa fille aînée et sa femme à faire ses expéditions de jugement. Madame Crémière était une grosse femme d'un blond douteux, au teint criblé de taches de rousseur, un peu trop serrée dans ses robes, liée avec Madame Dionis et qui passait pour instruite parce qu'elle lisait des romans. Cette financière du dernier ordre, pleine de prétentions à l'élégance et au bel esprit, attendait l'héritage de son oncle pour « prendre un certain genre », orner son salon et y recevoir la bourgeoisie, car son mari lui refusait les lampes carcelles, les lithographies et les futilités qu'elle voyait chez la notaresse. Elle craignait excessivement Goupil, qui guettait et colportait ses capsulinguettes. Elle traduisait ainsi le mot « lapsus linguae ». Un jour, Madame Dionis lui dit qu'elle ne savait plus quelle eau prendre pour ses dents. Prenez de l'opium, lui répondit-elle. Presque tous les collatéraux du vieux docteur Minoret se trouvèrent alors réunis sur la place, et l'importance de l'événement qui les ameutait fut si généralement sentie que les groupes de paysans et de paysannes armés de leurs parapluies rouges, tous vêtus de ces couleurs éclatantes qui les rendent si pittoresques les jours de fête à travers les chemins, eurent les yeux sur les héritiers Minoret. Dans les petites villes qui tiennent le milieu entre les gros bourgs et les villes, ceux qui ne vont pas à la messe restent sur la place. On y cause d'affaires. À Nemours, l'heure des offices est celle d'une bourse hebdomadaire, à laquelle venaient souvent les maîtres des habitations éparses, dans un rayon d'une demi-lieue. Ainsi s'explique l'entente des paysans contre les bourgeois, relativement au prix des denrées et de la main-d'œuvre. Et qu'aurais-tu donc fait ? Dit le maître de Nemours à Goupil. Je me serais rendu aussi nécessaire à sa vie que l'air qu'il respire. Mais d'abord, vous n'avez pas su le prendre. Une succession veut être soignée autant qu'une belle femme, et faute de soins, elles échappent toutes deux. Si ma patronne était là, reprit-il, elle vous dirait combien cette comparaison est juste. Mais monsieur Bongrand vient de me dire de ne point nous inquiéter, répondit le greffier de la justice de paix. Oh, il y a bien des manières de dire ça, répondit Goupil en riant. J'aurais bien voulu entendre votre finot de juge de paix, s'il n'y avait plus rien à faire. Si, comme lui qui vit chez votre oncle, je savais tout perdu, je vous dirais « Ne vous inquiétez de rien !» En prononçant cette dernière phrase, Goupil eut un sourire si comique et lui donna une signification si claire que les héritiers soupçonnèrent le greffier de s'être laissé prendre aux finesses du juge de paix. Le percepteur, gros petit homme aussi insignifiant qu'un percepteur doit l'être, et aussi nul qu'une femme d'esprit pouvait le souhaiter, foudroya son co-héritier Massin par un « Quand je vous le disais !» Comme les gens doubles prêtent toujours aux autres leur duplicité, Massin regarda de travers le juge de paix, qui causait en ce moment près de l'église avec le marquis du Rouvre, un de ses anciens clients. « Si je savais cela, dit-il, vous paralyseriez la protection qu'il accorde au marquis du Rouvre, contre lequel il est arrivé des prises de corps, et qu'il arrose en ce moment de ses conseils. » dit Goupil en glissant une idée de vengeance au greffier. « Mais filez doux avec votre chef. Le bonhomme est fin. Il doit avoir de l'influence sur votre oncle, et peut encore l'empêcher de léguer tout à l'église. » « Bah, nous n'en mourrons pas !» dit Minoret Levrault en ouvrant son immense tabatière. « Vous n'en vivrez pas non plus !» répondit Goupil en faisant frissonner les deux femmes qui, plus promptement que leur mari, traduisaient en privation la perte de cette succession tant de fois employée en bien-être. « Mais nous noierons dans les flots de vin de champagne ce petit chagrin en célébrant le retour de Désiré. « N'est-ce pas, gros père ? » ajouta-t-il en frappant sur le ventre du colosse et s'invitant ainsi lui-même, de peur qu'on ne l'oubliât. Avant d'aller plus loin, peut-être les gens exacts aimeront-ils à trouver ici par avance une espèce d'intitulé d'inventaire assez nécessaire d'ailleurs pour connaître les degrés de parenté qui rattachaient au vieillard, si subitement converti, ces trois pères de famille ou leurs femmes. Ces entrecroisements de races au fond des provinces peuvent être le sujet de plus d'une réflexion instructive. À Nemours, il ne se trouve que trois ou quatre maisons de petite noblesse inconnue, parmi lesquelles brillait alors celle des Poutenduère. Ces familles exclusives hantent les nobles qui possèdent des terres ou des châteaux aux environs, et parmi lesquels on distingue les d'Aiglemont, propriétaire de la belle terre de Saint-Lange, et le marquis du Rouvre, dont les biens criblés d'hypothèques étaient guettés par les bourgeois. Les nobles de la ville sont sans fortune. Pour tout bien, Madame de Portenduère possédait une ferme de 4 700 francs de rente et sa maison en ville. À l'encontre de ce minime faubourg Saint-Germain se groupent une dizaine de richards, d'anciens meuniers, des négociants retirés, enfin une bourgeoisie en miniature sous laquelle s'agitent les petits détaillants, les prolétaires et les paysans. Cette bourgeoisie offre, comme dans les cantons suisses et dans plusieurs autres petits pays, le curieux spectacle de l'irradiation de quelques familles autochtones, gauloises peut-être, régnant sur un territoire, l'envahissant et rendant presque tous les habitants cousins. Sous Louis XI, époque à laquelle le tiers-état a fini par faire de ses surnoms de véritables noms, dont quelques-uns se mêlèrent à ceux de la féodalité, la bourgeoisie de Nemours se composait de Minoret, de Massin, de Levrault et de Crémière. Sous Louis XIII, ces quatre familles produisaient déjà des Massin-Crémière, des Levrault-Massin, des Massin-Minoret, des Minoret-Minoret, des Crémière-Levrault, des Levrault-Minoret-Massin, des Massin-Levrault, des Minoret-Massin, des Massin-Massin, des Crémière-Massin. Tout cela bariolé de juniors, de fils aînés, de Crémière-François, de Levrault-Jacques, de Jean Minoret, à rendre fou le père Anselme du peuple, si le peuple avait jamais besoin de généalogiste. Les variations de ce kaléidoscope domestique à quatre éléments se compliquaient tellement par les naissances et par les mariages que l'arbre généalogique des bourgeois de Nemours eut embarrassé les bénédictins de l'almanach de Gotha eux-mêmes, malgré la science atomistique avec laquelle ils disposent les zigzags des alliances allemandes. Pendant longtemps, les Minoret occupèrent les tanneries, les Crémières tinrent les moulins, les Massins s'adonnèrent au commerce, les Levrault restèrent fermiers. Heureusement pour le pays, ces quatre souches s'installaient au lieu de pivoter, ou repoussaient de bouture par l'expatriation des enfants qui cherchaient fortune au dehors. Il y a des Minoret couteliers à Melun, des Levrault à Montargis, des Massins à Orléans, et des Crémières devenues considérables à Paris. Diverses sont les destinées de ces abeilles sorties de la ruche mère. Des Massins riches emploient nécessairement des Massins ouvriers, de même qu'il y a des princes allemands au service de l'Autriche ou de la Prusse. Le même département voit un Minoret millionnaire gardé par un Minoret soldat. Pleine du même sang et appelée du même nom pour toute similitude, ces quatre navettes avaient tissé sans relâche une toile humaine dont chaque lambeau se trouvait robe ou serviette, batiste superbe ou doublure grossière. Le même sang était à la tête, aux pieds ou au cœur, en des mains industrieuses, dans un poumon souffrant ou dans un front gros de génie. Les chefs de clan habitaient fidèlement la petite ville, où les liens de parenté se relâchaient, se resserraient au gré des événements représentés par ce bizarre cognomonisme. En quelque pays que vous alliez, changez les noms, vous retrouverez le fait, mais sans la poésie que la féodalité lui avait imprimée et que Walter Scott a reproduite avec tant de talent. Portons nos regards un peu plus haut. Examinons l'humanité dans l'histoire. Toutes les familles nobles du XIe siècle, aujourd'hui presque toutes éteintes, moins la race royale décapée, toutes ont nécessairement coopéré à la naissance d'un Rohan, d'un Montmorency, d'un Beaufremont, d'un Bortemart d'aujourd'hui. Enfin, toutes seront nécessairement dans le sang du dernier gentilhomme vraiment gentilhomme. En d'autres termes, tout bourgeois est cousin d'un bourgeois, tout noble est cousin d'un noble. Comme le dit la sublime page des généalogies bibliques, en 1000 ans, trois familles, Sem, Cham et Japhé, peuvent couvrir le globe de leurs enfants. Une famille peut devenir une nation, et malheureusement, une nation peut redevenir une seule et simple famille. Pour le prouver, il suffit d'appliquer à la recherche des ancêtres et à leur accumulation que le temps accroît dans une rétrograde progression géométrique multipliée par elle-même, le calcul de ce sage qui, demandant à un roi de Perse, pour récompense d'avoir inventé le jeu d'échecs, un épi de blé pour la première case de l'échiquier, en doublant toujours, démontra que le royaume ne suffirait pas à le payer. Le lacis de la noblesse embrassé par le lacis de la bourgeoisie, cet antagonisme de 200 protégés, l'un par des institutions immobiles, l'autre par l'active patience du travail et par la ruse du commerce, a produit la révolution de 1789. Les 200, presque réunis, se trouvent aujourd'hui face à face avec des collatéraux sans héritage. Que feront-ils ? Notre avenir politique est gros de la réponse. La famille de celui qui, sous Louis XV, s'appelait Minoret tout court, était si nombreuse qu'un des 5 enfants, le Minoret dont l'entrée à l'église faisait événement, alla chercher fortune à Paris et ne se montra plus que de loin en loin dans sa ville natale, où il vint sans doute chercher sa part d'héritage à la mort de ses grands-parents. Après avoir beaucoup souffert, comme tous les jeunes gens doués d'une volonté ferme et qui veulent une place dans le brillant monde de Paris, l'enfant des Minoret se fit une destinée plus belle qu'il ne la rêvait peut-être à son début. Car il se voua tout d'abord à la médecine, une des professions qui demande du talent et du bonheur, mais encore plus de bonheur que de talent. Appuyé par Dupont de Nemours, lié par un heureux hasard avec l'abbé Morellet, que Voltaire appelait Morlaix, protégé par les encyclopédistes, le docteur Minoret s'attacha comme un seide au grand médecin Bordeux, l'ami de Diderot. D'Alembert, Helvétius, le baron d'Holbach, Grimm, devant lesquels il fut petit garçon, finirent sans doute comme Bordeux par s'intéresser à Minoret, qui vers 1777 eut une assez belle clientèle de déistes, d'encyclopédistes, sensualistes, matérialistes, comme il vous plaira d'appeler les riches philosophes de ce temps. Quoiqu'il fût très peu charlatan, il inventa le fameux baume de Lelièvre, tant vanté par le Mercure de France, et dont l'annonce était en permanence à la fin de ce journal, organe hebdomadaire des encyclopédistes. L'apothicaire Lelièvre, homme habile, vit une affaire là où Minoret n'avait vu qu'une préparation à mettre dans le codex, et partagea loyalement ses bénéfices avec le docteur, élève de Rouel en chimie, comme il était celui de Bordeux en médecine. On eût été matérialiste à moins. Le docteur épousa par amour en 1778, temps où régnait la nouvelle Héloïse et où l'on se mariait quelquefois par amour, la fille du fameux claveciniste Valentin Mirouette, une célèbre musicienne, faible et délicate, que la Révolution tua. Minoret connaissait intimement Robespierre, à qui jadis il fit avoir une médaille d'or pour une dissertation sur ce sujet. Quelle est l'origine de l'opinion qui étend sur une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable. Cette opinion est-elle plus nuisible qu'utile? Et dans le cas où l'on se déciderait pour l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvénients qui en résultent? L'Académie royale des sciences et des arts de Metz, à laquelle appartenait Minoret, doit avoir cette dissertation en original. Quoique, grâce à cette amitié, la femme du docteur put ne rien craindre, elle eut si peur d'aller à l'échafaud que cette invincible terreur empira l'anévrisme qu'elle devait à une trop grande sensibilité. Malgré toutes les précautions que prenait un homme idolâtre de sa femme, Ursule rencontra la charrette pleine de condamnés où se trouvait précisément Madame Roland, et ce spectacle causa sa mort. Minoret, plein de faiblesse pour son Ursule, à laquelle il ne refusait rien et qui avait mené la vie d'une petite maîtresse, se trouva presque pauvre après l'avoir perdu. Robespierre le fit nommer médecin en chef d'un hôpital. Quoique le nom de Minoret eût acquis, pendant les débats animés auxquels donna lieu le mesmérisme, une célébrité qui le rappela de temps en temps au souvenir de ses parents. La révolution fut un si grand dissolvant et rompit tant les relations de famille qu'en 1813, on ignorait entièrement à Nemours l'existence du docteur Minoret, à qui une rencontre inattendue fit concevoir le projet de revenir comme les lièvres, mourir au gîte. En traversant la France, où l'œil est si promptement lassé par la monotonie des plaines, qui n'a pas eu la charmante sensation d'apercevoir en haut d'une côte, à sa descente ou à son tournant, alors qu'elle promettait un paysage aride, une fraîche vallée arrosée par une rivière et une petite ville abritée sous le rocher comme une ruche dans le creux d'un vieux saule. En entendant le « hu » du postillon qui marche le long de ses chevaux, on secoue le sommeil, on admire comme un rêve dans le rêve quelque beau paysage qui devient pour le voyageur ce qu'est pour un lecteur le passage remarquable d'un livre, une brillante pensée de la nature. Telle est la sensation que cause la vue soudaine de Nemours en y venant de la Bourgogne. On la voit de là, cerclée par des roches pelées, grises, blanches, noires, de formes bizarres, comme il s'en trouve tant dans la forêt de Fontainebleau, et d'où s'élancent des arbres épars qui se détachent nettement sur le ciel et donnent à cette espèce de muraille écroulée une physionomie agreste. Là se termine la longue colline forestière qui rampe de Nemours à Bouron en côtoyant la route. Au bas de ce cirque informe s'étale une prairie où court le loing en formant des nappes à cascade. Ce délicieux paysage que longe la route de Montargis ressemble à une décoration d'opéra, tant les effets y sont étudiés. Un matin, le docteur, qu'un riche malade de la Bourgogne avait envoyé chercher, et qui revenait en toute hâte à Paris, n'ayant pas dit au précédent relais quelle route il voulait prendre, fut conduit à son insu par Nemours, et revit, entre deux sommeils, le paysage au milieu duquel son enfance s'était écoulée. Le docteur avait alors perdu plusieurs de ses vieux amis. Le sectaire de l'encyclopédie avait été témoin de la conversion de la harpe. Il avait enterré Lebrun Pindar et Marie-Joseph de Chénier et Morellet et Madame Helvétius. Il assistait à la quasi-chute de Voltaire, attaqué par Geoffroy, le continuateur de Fréron. Il pensait donc à la retraite. Aussi, quand sa chaise de poste s'arrêta en haut de la grand-rue de Nemours, eut-il à cœur de s'enquérir de sa famille. Minoret Levrault vint lui-même voir le docteur, qui reconnut dans le maître de poste le propre fils de son frère aîné. Ce neveu lui montra dans son épouse la fille unique du père Levrault Crémière, qui depuis 12 ans lui avait laissé la poste et la plus belle auberge de Nemours. « Eh bien, mon neveu, dit le docteur, ai-je d'autres héritiers ?» « Ma tante Minoret, votre sœur, a épousé un Massin-Massin. » « Oui, l'intendant de Saint-Lange. » « Elle est morte veuve en laissant une seule fille, qui vient de se marier avec un Crémière-Crémière, un charmant garçon, encore sans place. » « Bien, elle est ma nièce directe. Or, comme mon frère le marin est mort garçon, que le capitaine Minoret a été tué à Monteleghino, et que me voici, la ligne paternelle est épuisée. Ai-je des parents dans la ligne maternelle? Ma mère était une Jean-Massin-Levrault. » « Des Jean-Massin-Levrault, répondit Minoret Levrault, il n'est resté qu'une Jean-Massin qui a épousé M. Crémière-Levrault Dionis, un fournisseur des fourrages qui a péri sur l'échafaud. Sa femme est morte de désespoir et ruinée, en laissant une fille mariée à un Levrault Minoret, fermier à Montereau, qui va bien. Et leur fille vient d'épouser un Massin Levrault, clerc de notaire à Montargis, ou le père est serrurier.
Ainsi, je ne manque pas d'héritier, dit gaiement le docteur, qui voulut faire le tour de Nemours en compagnie de son neveu.
Le loin traverse onduleusement la ville, bordée de jardins à terrasses et de maisons proprettes, dont l'aspect fait croire que le bonheur doit habiter là plutôt qu'ailleurs. Lorsque le docteur tourna de la Grand-Rue dans la rue des Bourgeois, Minoret Levrault lui montra la propriété de Monsieur Levrault, riche marchand de fer à Paris, qui, dit-il, venait de se laisser mourir.
« Voilà, mon oncle, une jolie maison à vendre. Elle a un charmant jardin sur la rivière. »«
Entrons, » dit le docteur, en voyant au bout d'une petite cour pavée une maison serrée entre les murailles de deux maisons voisines, déguisées par des massifs d'arbres et de plantes grimpantes.
« Elle est bâtie sur cave, » dit le docteur en entrant par un perron très élevé, garni de vases en faïence blanche et bleue où fleurissaient alors des géraniums.
Coupée, comme la plupart des maisons de province, par un corridor qui mène de la cour au jardin, la maison n'avait à droite qu'un salon éclairé par quatre croisées, deux sur la cour et deux sur le jardin. Mais Levrault Levrault avait consacré l'une de ces croisées à l'entrée d'une longue serre bâtie en briques qui allait du salon à la rivière, où elle se terminait par un horrible pavillon chinois.
Bon, en faisant couvrir cette serre et la parquetant, dit le vieux Minoret, je pourrais loger ma bibliothèque et faire un joli cabinet de ce singulier morceau d'architecture.
De l'autre côté du corridor se trouvait sur le jardin une salle à manger, en imitation de laque noire à fleurs vert et or, et séparée de la cuisine par la cage de l'escalier. On communiquait, par un petit office pratiqué derrière cet escalier, avec la cuisine, dont les fenêtres à barreaux de fer grillagés donnaient sur la cour. Il y avait deux appartements au premier étage, et au-dessus, des mansardes lambrissées, encore assez logeables. Après avoir rapidement examiné cette maison, garnie de treillages verts du haut en bas, du côté de la cour comme du côté du jardin, et qui, sur la rivière, était terminée par une terrasse chargée de vases en faïence, le docteur dit
« Levrault Levrault a dû dépenser bien de l'argent, ici. »«
Oh, gros comme lui !» répondit Minoret Levrault. « Il aimait les fleurs, une bêtise.
Qu'est-ce que cela rapporte ?» dit ma femme.
« Vous voyez ?» Un peintre de Paris est venu pour peindre en fleurs à fresque son corridor. Il a mis partout des glaces entières. Les plafonds ont été refaits avec des corniches qui coûtent 6 francs le pied. La salle à manger, les parquets sont en marqueterie. Des folies! La maison ne vaut pas un sou de plus. Eh bien, mon neveu, fais-moi cette acquisition. Donne-moi avis. Voici mon adresse. Le reste regardera mon notaire.
« Qui donc demeure en face ? »
demanda-t-il en sortant.
« Des émigrés, »
répondit le maître de poste. « Un chevalier de Portenduère. » Une fois la maison achetée, l'illustre docteur, au lieu d'y venir, écrivit à son neveu de louer. La folie Levrault fut habitée par le notaire de Nemours, qui vendit alors sa charge à Dionis, son maître clerc, et qui mourut 2 ans après, laissant sur le dos du médecin une maison à louer, au moment où le sort de Napoléon se décidait aux environs. Les héritiers du docteur, à peu près leurrés, avaient pris son désir de retour pour la fantaisie d'un Richard, et se désespéraient en lui supposant à Paris des affections qui l'y retiendraient et leur enlèveraient sa succession. Néanmoins, la femme de Minoret Levrault saisit cette occasion d'écrire au docteur. Le vieillard répondit qu'aussitôt la paix signée, une fois les routes débarrassées de soldats et les communications rétablies, il viendrait habiter Nemours. Il y fit une apparition avec 2 de ses clients, l'architecte des hospices et un tapissier, qui se chargèrent des réparations, des arrangements intérieurs et du transport du mobilier. Madame Minoret Levrault offrit, comme gardienne, la cuisinière du vieux notaire décédé, qui fut acceptée. Quand les héritiers surent que leur oncle ou grand-oncle Minoret allait positivement demeurer à Nemours, leurs familles furent prises, malgré les événements politiques qui pesaient alors précisément sur le Gâtinais et sur la Brie, d'une curiosité dévorante, mais presque légitime. L'oncle était-il riche? Était-il économe ou dépensier? Laisserait-il une belle fortune ou ne laisserait-il rien? Avait-il des rentes viagères? Voici ce qu'on finit par savoir, mais avec des peines infinies et à force d'espionnage souterrain. Après la mort d'Ursule Mirouette, sa femme, de 1789 à 1813, le docteur, nommé médecin consultant de l'empereur en 1805, avait dû gagner beaucoup d'argent. Mais personne ne connaissait sa fortune. Il vivait simplement, sans autre dépense que celle d'une voiture à l'année et d'un somptueux appartement. Il ne recevait jamais et dînait presque toujours en ville. Sa gouvernante, furieuse de ne pas l'accompagner à Nemours, dit à Zélie Levrault, la femme du maître de poste, qu'elle connaissait au docteur 14 000 francs de rente sur le grand livre. Or, après 20 années d'exercice d'une profession que les titres de médecin en chef d'un hôpital, de médecin de l'empereur et de membre de l'institut rendaient si lucrative, ces 14 000 livres de rente, fruits de placements successifs, accusaient tout au plus 160 000 francs d'économie. Pour n'avoir épargné que 8 000 francs par an, le docteur devait avoir eu bien des vices ou bien des vertus à satisfaire. Mais ni la gouvernante, ni Zélie, personne ne put pénétrer la raison de cette modestie de fortune. Minoret, qui fut bien regretté dans son quartier, était un des hommes les plus bienfaisants de Paris, et, comme l'arrêt, gardait un profond secret sur ses actes de bienfaisance. Les héritiers virent donc arriver, avec une vive satisfaction, le riche mobilier et la nombreuse bibliothèque de leur oncle, déjà officier de la Légion d'honneur, et nommé par le roi chevalier de l'ordre de Saint-Michel, à cause peut-être de sa retraite qui fit une place à quelques favoris. Mais quand l'architecte, les peintres, les tapissiers eurent tout arrangé de la manière la plus confortable, le docteur ne vint pas. Madame Minoret Levrault, qui surveillait le tapissier et l'architecte comme s'il s'agissait de sa propre fortune, apprit, par l'indiscrétion d'un jeune homme envoyé pour ranger la bibliothèque, que le docteur prenait soin d'une orpheline nommée Ursule. Cette nouvelle fit des ravages étranges dans la ville de Nemours. Enfin, le vieillard se rendit chez lui vers le milieu du mois de janvier 1815 et s'installa sournoisement avec une petite fille âgée de 10 mois, accompagnée d'une nourrice. « Ursule ne peut pas être sa fille, il a 71 ans !» dirent les héritiers alarmés. « Quoi qu'elle puisse être, » dit Madame Massin, « elle nous donnera bien du tintouin !» Un mot de Nemours.